vous écoutez RFI, il est 20h30 à Paris, 18h30 à Bamako et en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Eh bien, c'est l'heure de retrouver l'actualité sur le continent. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain Ozoui, bonsoir à toutes et à tous. À la une, la visite du chef de la junte malienne en Russie, un déplacement du général Assimi Goïta qui intervient dans un contexte de recrudescence des attaques djihadistes au Mali. Nous irons ensuite au Niger, où des dizaines de civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche au cours d'une attaque de présumés djihadistes dans la zone dite des trois frontières. Et puis en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara entretient le suspense sur sa participation à la présidentielle d'octobre prochain. Le chef de l'État se laisse encore quelques jours pour prendre sa décision. À retenir enfin notre dossier consacré à la hausse de la cybercriminalité en Afrique. On en parle à la faveur de la publication d'un rapport d'Interpol sur le sujet. Avant de développer ces titres, je vous rappelle la principale information de cette soirée. La riposte de l'Iran aux frappes américaines sur des sites nucléaires ce week-end. Téhéran a ciblé une base militaire américaine au Qatar ce lundi. Doha dit avoir intercepté avec succès des missiles et se réserve le droit de répondre à cette attaque. On y revient largement dans notre prochaine édition et sur RFI.fr. C'est un déplacement qui intervient dans un contexte de recrudescence des attaques djihadistes au Mali. Arrivé dimanche à Moscou, le chef de la junte au pouvoir à Bamako, le général Assimi Goïta, a rencontré ce lundi au Kremlin le président Vladimir Poutine. Cette rencontre s'est notamment soldée par la signature de documents visant à resserrer les liens économiques entre Moscou et Bamako et la coopération dans le domaine du nucléaire civil, selon le Kremlin. Avec l'arrivée de l'Africa Corps qui succède à Wagner, c'est donc une officialisation des liens militaires. RFI à Moscou, Anissa El Jabri.
À son arrivée sur le sol russe, le général Assimi Goïta déclarait « Je suis convaincu que cette visite sera l'occasion de renforcer nos relations », citant la défense, les transports et l'économie comme secteurs prometteurs de coopération dans cet ordre. Et de fait, le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, a rencontré en parallèle son homologue malien, le général Sadio Camara, une rencontre qui a donné lieu, et c'est rare, à une communication plus importante qu'habituellement en Russie. Sur la chaîne Telegram du ministère de la Défense, on a ainsi pu voir Andrei Belousov en uniforme déclarer en face de son homologue malien « La priorité de notre partenariat est d'obtenir des résultats concrets en matière de renforcement de la sécurité et de la souveraineté. Cette approche-là est la clé de tout succès et de toute victoire. » Fin de citation. Le ministère de la Défense russe assume donc désormais officiellement et pleinement son rôle au Mali. D'autres annonces sont sans doute à venir. La Russie et le Mali ayant déjà annoncé lancer une coopération dans le domaine du nucléaire civil. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
Et retour à présent sur l'attaque de Manda au Niger. Elle s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche dans ce village du département de Terra, région de Tillabéri, dans le sud-ouest du pays. De sources locales, le bilan s'élève désormais à 71 morts et une vingtaine de blessés, tous civils. Une attaque dont le mode opératoire rappelle celle de Fambita en mars dernier. Le récit de Magali Lagrange.
Les fidèles sont réunis devant la mosquée de Manda pour écouter des prêches samedi soir quand des hommes armés font irruption dans le village à la nuit tombée. De sources locales, les victimes se comptent par dizaines. Les blessés, plus d'une vingtaine, sont actuellement soignés dans plusieurs centres de santé de la zone, l'un d'eux évacué vers Niamey pour être pris en charge. Le village de Manda est situé dans le département de Terra, zone des trois frontières, dans laquelle le groupe État islamique au Sahel est actif. Il est rattaché à la commune de Gorwol. Un appel du conseil communal de la jeunesse de cette localité circule, demandant des contributions de toute nature pour venir en aide aux rescapés et aux blessés de cette attaque. C'est la deuxième fois cette année qu'un rassemblement de fidèles est visé dans cette région du Niger. Le mode opératoire de l'attaque de Manda rappelle celle de Fambita. Courant mars, la mosquée de cette localité du Tillabéri avait été encerclée par des hommes armés au moment de la grande prière. 44 civils avaient été tués selon le bilan officiel. 3 jours de deuil national avaient alors été décrétés.
Un récit signé Magali Lagrange. En attendait le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye. C'est finalement le Sierra Leonais Julius Maada Bio qui a été élu à la présidence tournante de la CEDEAO. Première déclaration du nouveau président de l'organisation ouest-africaine. Notre région est à la croisée des chemins. Avec Christina Okello, on fait le point sur les priorités qu'il entend défendre à la tête de cette organisation.
Julius Madabio veut placer son mandat sous le signe du dialogue et de la réforme. Sa première priorité, le retour à l'ordre constitutionnel. Car les prises de pouvoir inconstitutionnelles menacent la stabilité régionale, a affirmé aujourd'hui son ministre des Affaires étrangères, Timothy Kaba, en visant directement les juntes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Face à ces crises, Julius Madabio prône une approche inclusive. Ancien militaire, devenu président élu, il veut renouer le dialogue avec les régimes putschistes. Et il est bien placé pour le faire, car il comprend la psychologie des dirigeants militaires, explique le ministre Timothy Kaba. Objectif affiché, ramener ces trois pays dans les girons de la CEDEAO pour tenter de relancer l'intégration économique affaiblie par leur retrait. Autre chantier, réformer l'organisation depuis le terrain en impliquant douaniers et agents d'immigration. Enfin, Julius Madabio veut avancer sur le dossier explosif de Yenga, zone frontalière entre la Sierra Leone et la Guinée, occupée par l'armée guinéenne. Freetown dénonce une violation flagrante de sa souveraineté et espère que cette présidence offrira un levier diplomatique pour obtenir le retrait de soldats guinéens.
Christina Okello ira ou n'ira pas en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a été désigné ce week-end candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre prochain. Réuni par dizaines de milliers en congrès au stade Ebempe d'Abidjan, le parti présidentiel a fait le choix du maintien au pouvoir du chef de l'État pour un quatrième mandat. Âgé de 83 ans, Alassane Ouattara a répondu qu'il rendrait sa décision dans les jours à venir. Un scénario très similaire à celui de la présidentielle de 2020. Mais cette fois-ci, du côté de ses adversaires politiques, tous ne croient pas qu'il répondra favorablement à ses militants. C'est le cas de Pascal Affinguessan, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, président du FPI et lui-même candidat.
Monsieur Ouattara sait que la Côte d'Ivoire n'est pas la propriété exclusive du RHDP et ne sert pas uniquement les intérêts des cadres du RHDP, leur maintien au pouvoir. Il y a d'autres enjeux très importants. Il faut qu'ils prennent en compte les autres dimensions de la situation nationale, notamment la situation au niveau de l'opposition politique qui est vent debout pour se battre afin qu'il n'ait pas un quatrième mandat, du contexte international qui n'est pas en sa faveur, du contexte sous-régional qui est risqué si M. Ouattara est candidat. Et donc, lorsqu'il pèse tout cela, il est condamné à trouver une solution qui est la solution du retrait, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous ne sommes plus en 2020. Le contexte a totalement changé, aussi bien à l'intérieur que dans la sous-région. En 2020, il avait encore quelques cartes en main. Mais aujourd'hui, il a épuisé toutes ses cartes et tout ce qui lui reste, c'est le retrait.
En propre accueilli par Sidi Ansané. L'armée congolaise et l'armée ougandaise renforcent leur coopération militaire en République démocratique du Congo. Les deux chefs d'état-major, le général ougandais Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni, et le général congolais Jules Banza Mwilambwe, ont signé vendredi à Kinshasa un mémorandum d'entente pour poursuivre l'opération conjointe Soudja, opération de lutte contre les rebelles ADF, une opération aux objectifs sécuritaires affichés, mais qui répond aussi, Patien Ligodi, à des enjeux géopolitique plus large dans la région.
À travers ce mémorandum d'entente révisé, l'Ouganda cherche à consolider sa position stratégique en RDC, un pays voisin auquel il tient pour plusieurs raisons. Contrairement au Rwanda, l'Ouganda a choisi la voie d'une coopération formelle, disent les sources au sein de la présidence congolaise. Objectif affiché, combattre les ADF, ces rebelles d'origine ougandaise, à filialité islamique et sécuriser les zones frontalières. Mais pas seulement. Kampala veut également garder un œil sur les groupes armés actifs dans le Nord Kivu et l'Ituri. En toile de fond, il y a la sécurisation des travaux d'infrastructures comme la route Mpondwe-Kassindi-Beni. Ces chantiers sont exécutés par Dot Services, une société basée à Kampala et financée conjointement par les deux pays. Pour l'Ouganda, ces voies sont vitales pour accéder au vaste marché congolais. Muhoozi Kainerugaba en a encore parlé avec le chef de l'État congolais. Enfin, cet activisme ougandais vise à rappeler que Kampala reste un acteur régional incontournable, militairement, diplomatiquement, mais aussi économiquement. L'accord de paix négocié entre Kinshasa et Kigali à Washington prévoit un renforcement du mécanisme régional de commerce. Et dans ce contexte, l'Ouganda, point de sortie majeur de l'or et du café congolais, souvent issu de la contrebande, entend bien jouer sa carte, disent plusieurs sources contactées à propos.
patient Ligodi. On s'intéresse maintenant à la situation des réfugiés climatiques de Bor, capitale de l'état de Jonglei au Soudan du Sud. Depuis 2020, plus d'un demi-million d'habitants de la région ont été affectés par les inondations provoquées par la crue du Nil et les pluies torrentielles. Ce cycle d'inondations toujours en cours a poussé pas moins de 130 000 habitants des zones inondées à trouver refuge dans des camps de déplacés autour de Bor. Voilà maintenant plus de 4 ans qu'ils sont là et à attendre un retour hypothétique chez eux. Reportage de notre envoyé spécial, Florence Mieto.
Au camp de Maloua-la-Gorbar, près de Bor, chaque toukoul, les maisons traditionnelles, est entourée de potagers d'où affleurent des pieds de sorgho en ce début de saison des pluies. Ding Kwot Deng, 29 ans, désherbe son champ à l'aide d'un outil traditionnel. Mère de 5 enfants, la crue du Nil l'a chassée de son village de Djalé en 2021.
C'était terrible. Nous avons dû mettre ce que nous avons pu dans un canoë et fuir jusqu'à bord. Mais nous avons dû abandonner nos chèvres et beaucoup d'autres choses. Et nous sommes arrivés ici avec pratiquement rien. Cette petite ferme de sorgho, c'est ce qui nous aide à survivre. Et pendant la saison sèche, nous cultivons plus près du Nil.
Sa voisine, Akwol Manyangadjak, 21 ans, aimerait elle aussi retourner à Baïdit, le village de son mari. Mais c'est pour l'instant inenvisageable.
Moi, je vis et je cultive ici, dans le camp. Et mon mari va pêcher dans les marécages. Mais nous attendons la fin des inondations pour pouvoir retourner au village. Pour l'instant, c'est impossible car notre maison a été détruite. Et il y a encore de l'eau. Et puis il y a aussi beaucoup d'insécurité. Seul Dieu sait quand nous pourrons rentrer.
Les chefs locaux expliquent qu'ils espèrent que les travaux sur la digue au nord de Bor permettront d'assécher les villages inondés. Et avouent que la situation des déplacés de Maloua-la-Gorbar est encore plus difficile depuis l'arrêt des distributions alimentaires il y a 2 ans. Florence Mieto, de retour de bord, RFI.
RFI, 18h42 en temps universel et on ouvre notre dossier consacré aujourd'hui à la hausse de la cybercriminalité en Afrique. C'est en tout cas ce que pointe Interpol dans son rapport d'évaluation des cybermenaces pour 2025. Les arnaques en ligne, les rançongiciels et la compromission de courriers professionnels sont parmi les cybercrimes les plus répandus. Et les pays manquent d'infrastructures informatiques essentielles pour parvenir à lutter efficacement contre ces fléaux. Explication Pierre Firsian.
La cybercriminalité représente plus de 30% de l'ensemble des crimes signalés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Elle apparaît en très forte augmentation dans certains pays, exemple en Zambie, où les arnaques en ligne ont explosé de 3000% entre 2023 et 2024. Parmi les escroqueries les plus utilisées, le phishing ou l'hameçonnage arrivent en tête. Cette arnaque qui consiste à obtenir les données personnelles d'un internaute en se faisant passer pour un organisme reconnu représente 34% de tous les incidents cyber détectés à travers l'Afrique. Autre fléau en augmentation, les rançongiciels, ces logiciels malveillants qui bloquent l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers en les cryptant. Près de 18 000 attaques de ce type ont été détectées l'an passé en Égypte et plus de 12 000 en Afrique du Sud. Interpol note également que la compromission de courriels professionnels a fortement augmenté, tout comme les cas de sextorsion numérique, du chantage en ligne via des images sexuellement explicites. Ces images peuvent être authentiques ou générées par intelligence artificielle, précise le rapport. Voilà pourquoi Neil Jetton, le directeur de la cybercriminalité d'Interpol, alerte : la fraude par intelligence artificielle exige, estime-t-il, une attention urgente.
Et l'hameçonnage est donc l'une des arnaques les plus en vue. C'est notamment ce que nous explique Simon Hirle, officier spécialisé au sein de l'unité cybercriminalité d'Interpol, joint par Pierre Firsian.
Le phishing, c'est vraiment la porte d'entrée de la plupart des arnaques. Les cybercriminels envoient des messages qui ressemblent à ceux d'une banque ou d'un service de livraison, et incite les victimes à cliquer sur un lien ou à fournir leurs informations personnelles. C'est simple, mais redoutablement efficace et très répandu.
Quelles sont les zones et les pays les plus touchés?
Les régions les plus touchées sont clairement l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Certaines de nos données indiquent même que l'Éthiopie aurait été le pays le plus ciblé au monde en matière de détection des logiciels malveillants l'année dernière. C'est un signal fort, surtout pour un pays qui se numérise à grande vitesse. En Afrique de l'Ouest, des pays comme le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont des foyers pour les fraudes BEC, Business Email Compromise, et les arnaques sentimentales. En Afrique du Nord, l'Égypte à elle seule a représenté 13% de toutes les cyberattaques du continent l'an dernier.
Comment les États peuvent-ils parvenir à combattre efficacement cette cybercriminalité ? Les États ont-ils pris conscience de l'ampleur du problème, selon vous ?
Il y a des progrès, mais beaucoup de travail reste à faire. Plusieurs pays ont mis en place des unités spécialisées en cybercriminalité et ont lancé des formations pour les enquêteurs en particulier. C'est encourageant, mais plus de 90% des pays déclarent manquer de ressources et d'outils pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. 65% des pays africains n'ont pas actualisé leur législation en matière de cybercriminalité au cours des 12 derniers mois. Beaucoup n'ont pas encore de cadre juridique solide pour collecter les preuves numériques ou pour collaborer avec les grandes entreprises technologiques. Donc, il faut mettre à jour les lois, investir dans les compétences et les équipements et surtout renforcer des partenariats transfrontaliers. C'est la seule manière d'avoir une vraie longueur d'avance.
Simon Hirn, l'officier spécialisé au sein de l'unité cybercriminalité d'Interpol pour ce dossier consacré à la hausse de la cybercriminalité en Afrique. Dossier signé Pierre Firsion. C'est une nouvelle ère qui s'est ouverte ce lundi à Lausanne, au siège du Comité international olympique. Christy Coventry est devenue officiellement la 10e présidente de l'institution la plus puissante du sport mondial. L'ancienne nageuse zimbabwéenne, 41 ans, double championne olympique 2004-2008, élue le 20 mars dernier en Grèce, a pris la suite de Thomas Barr lors d'une cérémonie de passation de pouvoir sobre mais chaleureuse. Christophe Divindian.
Assise au premier rang sous le chapiteau dressé dans les jardins du CIO, entourée de son mari, de sa fille aînée et de ses parents, Kirsty Coventry prend la dimension du chemin parcouru, de la gloire dans les bassins imaginés petites, à la pionnière au sommet de l'Olympisme et de ses valeurs qu'elle entend défendre coûte que coûte.
En tant que membre du CIO, nous sommes les gardiens de ce mouvement. Il ne s'agit pas seulement d'un événement multisport, c'est une plateforme pour inspirer, changer des vies, apporter de l'espoir. Et j'ai hâte de travailler avec chacun d'entre vous pour nous assurer que nous continuons, dans notre monde divisé d'aujourd'hui, à être un signal d'espoir.
L'ex-nageuse venait alors de recevoir symboliquement la clé de la maison olympique des mains de Thomas Barr, très actif en coulisses pour le vote en faveur de sa successeuse, au profil idéal pour le président sortant.
Vous avez placé votre confiance en quelqu'un dont l'histoire personnelle est profondément enracinée dans le mouvement olympique. Elle est animée par le désir de redonner à notre mouvement qui a façonné sa vie. Désormais, elle reflète la nature véritablement mondiale et l'esprit jeune est tourné vers l'avenir de notre communauté olympique.
Et comme un clin d'œil à l'Afrique, terre de naissance de la nouvelle patronne et des JOJ de Dakar 2026, la cérémonie s'est achevée sur une version d'Imagine de John Lennon, interprétée par une Camerounaise, Maureen Ojong, accompagnée notamment d'un musicien sénégalais.
Christophe Diremzian, à l'écoute de RFI, il est 18h48 en temps universel. Le rappel des autres grands titres, Romain Ozoui.
Avec un grand titre ce soir, la situation au Proche-Orient et la réplique ce soir de l'Iran au raid américain mené ce week-end sur son territoire. Téhéran a frappé une base militaire américaine au Qatar, la plus grande base du Moyen-Orient. Pas de victime, précise Washington. Il s'agit d'une puissante réponse à l'agression américaine. Ça, c'est ce qu'annonce la télévision d'État iranienne. L'opération s'intitule Bénédiction de la victoire. Les réactions sont nombreuses ce soir. Celle d'Israël, il y a quelques instants. Israël, évidemment, qui a lancé la guerre en Iran. Voilà la preuve que l'Iran menace le monde entier, affirme l'armée israélienne. Le Qatar, où l'attaque s'est déroulée, dénonce une violation flagrante de sa souveraineté, mais annonce que ce soir la situation est stable. Les voisins du Qatar, Bahreïn et le Koweït, annoncent de leur côté la fermeture de leur espace aérien. Condamnation de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. La spirale du chaos, enfin, doit prendre fin, déclare le président français Emmanuel Macron. Alors avant cela, la journée avait été marquée par l'intensification de l'offensive militaire emmenée par Israël en Iran. Une frappe touchant notamment la prison d'Erbil à Téhéran. Les centres de commandement des gardiens de la Révolution ont également été atteints par les frappes israéliennes. Et Israël appelle ce soir les habitants de Téhéran, la capitale, à s'éloigner des bases militaires et sécuritaires, prévenant de la poursuite de ces raids.
Allez, 20h49 ici à Paris, suite d'Afrique Soir, la première édition Zéphirin Quadio et le premier volet de notre série de reportages consacré aux 30 ans de la Coupe du Monde de rugby, édition 95, qui s'était déroulée en Afrique du Sud.
Absolument, un événement sportif, un romain, mais surtout politique, puisque Nelson Mandela s'en est servi hein, comme d'un outil pour prôner la réconciliation de la nation arc-en-ciel. Auparavant, le régime d'apartheid exigeait que la ségrégation soit appliquée dans le sport. Les joueurs noirs étaient donc exclus des Springboks, la sélection nationale devenue un symbole de la culture africanaire et cible de boycott à l'international. Cependant, les communautés noires et métisses ont une histoire avec le rugby, histoire qui remonte bien avant 1995, ce que des chercheurs s'emploient à documenter. Reportage Claire Barjolès.
Voici les archives de l'université de Witz.
Dans ce labyrinthe de rayonnage, tout au bout d'une allée, se trouve une section consacrée à l'histoire des formes de résistance face à la ségrégation dans le sport. Parmi les trésors rassemblés, Ajit Gandabai exhume d'anciens documents sur de vieux clubs de rugby qui existaient dans les communautés noires et métisses.
Ici, on a une brochure commémorative du club de rugby des Newtonians qui a été formé en 1948. Il y a également des comptes rendus de réunions qui se sont tenues.
Ajit Gandabai et son équipe ont récolté des archives auprès d'anciens joueurs ou directeurs de clubs. Car afin de sauver cette histoire de l'oubli, il a fallu aller au-delà des sources traditionnelles qui passaient volontairement sous silence les pratiques sportives multiraciales.
Established.
La presse officielle ne couvrait pas le sport non ségrégué. Mais cette histoire doit être racontée, et plus seulement à partir de 1995.
Arrivé par le port du Cap avec les colons britanniques, le rugby s'est propagé au sein des communautés noires via les missionnaires et leurs écoles au 19e siècle. La passion de la balle ovale s'est particulièrement emparée de la province du Cap Oriental, au sud du pays. Un mot, en Xhosa, a donné son titre à l'un des ouvrages coécrits par le chercheur Buntu Siwisa.
Le terme umboko signifie la forme hexagone pour désigner le ballon qui n'est pas rond. Donc le fait qu'on ait décrit cette forme en Isikosa permet une déconstruction décoloniale de qui peut s'approprier le rugby. C'est aussi notre sport.
Ces clubs de rugby jouaient aussi un rôle dans le mouvement de résistance contre l'apartheid, selon l'enseignant de l'université de Johannesburg.
Déjà à l'époque, c'était beaucoup plus que du sport. C'était un outil de mobilisation politique. Par exemple, les militants frappés d'interdiction, qui ne pouvaient pas être vus dans des rassemblements, se servaient des clubs comme de lieux où ils pouvaient se retrouver, planifier des actions. Et les stades où on joue au rugby pouvaient être utilisés pour d'immenses funérailles politiques.
Quant aux spectateurs noirs et métis qui suivaient les matchs internationaux, ils supportaient bien souvent d'autres équipes ennemies des Springboks, et notamment les Néo-Zélandais qui avaient un effectif plus mixte. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on peut trouver nombre de fans des All Blacks dans les stades sud-africains. Claire Barjolès, Johannesburg, RFI.
RFI à Johannesburg, où il est actuellement 20h53. Et on accueille Kezloum. Bonsoir Kezloum.
Bonsoir Zéphirin.
Aujourd'hui, vous nous présentez l'un des titres de la playlist afro de RFI, à écouter bien sûr aussi bien sur nos ondes que sur toutes les plateformes d'écoute.
Oui, et c'est d'ailleurs un grand, grand plaisir de vous présenter l'un des titres afro qui va vous accompagner cet été, j'en suis sûr, et peut-être même au-delà. Mais avant ça, reconnaîtrez-vous le style de cet héritier talentueux ?
Bien, Kay, je crois que j'ai une piste. Il y a du Kuti dans l'air.
Bravo, bravo Zéphirin. Et celui qui nous demande de libérer notre pensée et notre âme dans cette chanson Free Your Mind n'est autre que Madé Kuti. Cette chanson, elle est sortie le 15 octobre 2020. Alors le multi-instrumentiste, auteur, interprète est en effet le fils de Femi et le petit-fils de Fela. Fela Kuti, le roi, l'inventeur d'un style, l'afrobeat. Alors Zéphirin, on vient de s'écouter un petit extrait en avant-goût de notre titre du soir, I Won't Run Away, qui signifie « Je ne vais pas m'enfuir ». Il est à paraître dans son tout premier album solo, Chapter 1, Where Does Happiness Come From, d'où vient le bonheur en français, et qui sort le 25 juillet.
Eh bien, je sais que c'est grâce à cette rythmique un peu particulière, identifiable parmi mille autres, que j'ai trouvé la piste de Kuti. Quand on évoque en tout cas la famille Kuti, on pense évidemment à la légende Fela Kuti et à ses deux fils, Femi et Sean. Alors, comment trouver son identité pour Madé dans cette lignée familiale talentueuse?
Alors, Madé, il puise l'essence de son style afrobeat dans le jazz. Et il va venir comme ça agrémenter son afrobeat de soul, de jazz, de musique classique et de funk. Cette identité musicale là, il va la défendre à travers des thèmes peut-être moins politiques mais plus personnels, où il nous parle plus de ses émotions, là où son père et son grand-père, eux, s'insurgent contre la corruption et les inégalités sociales.
Ouais, une manière pour lui de se démarquer.
Oui, se démarquer, oui, mais pas à tout prix tout de même. C'est là qu'intervient la subtilité de l'artiste, parce que tout en continuant de dénoncer ce monde percé par la violence, les inégalités et la déconnexion culturelle, dans I Won't Run Away, il porte ce message, un message de persévérance, et il est dans une recherche. Cette recherche de cette meilleure version de soi-même. Cette idée de ne pas fuir et de lutter contre ses propres défauts.
Et c'est vraisemblablement ce qui vous a touché dans ce morceau.
Ah oui, Keys, oui. Tout à fait, Zéphirin. C'est simple, ce morceau, je l'ai écouté au moins 20 fois aujourd'hui et les jours qui ont précédé. Parce qu'en plus de ces paroles qui mènent vers une introspection, il y a toute cette orchestration d'une efficacité redoutable et cette mélodie formidablement entêtante. Cette chanson, elle nous offre vraiment une impression à la fois de profondeur et d'élévation. C'est sa rythmique, son énergie, ses cuivres. Bref, Zéphirin, c'est de la très grande musique.
Eh bien, il ne nous reste plus qu'à écouter ensemble ce son de Madé Kuti, I Won't Run Away, à retrouver bien sûr sur la playlist Afro de RFI et sur les plateformes d'écoute musicale que vous connaissez, Spotify, Deezer ou encore YouTube, et bien entendu sur le site RFI Musique. Bien, c'est avec ce I Won't Run Away de Madé Kuti que s'achève cette première édition d'Afrique Soir. On retrouve maintenant Romain Ozoui pour les quelques rendez-vous de la soirée sur notre chaîne.
Ça fait du bien de se quitter en musique, Zéphirin Quadio. À tout à l'heure, merci beaucoup. À suivre dans les prochaines minutes, le journal de 19h temps universel, déjà, ça ce sera dans une minute. Et puis, 10 minutes plus tard, le décryptage ce soir au chevet du régime iranien, affaibli évidemment par l'offensive israélienne. Est-ce que le régime iranien est sur le point de tomber, le régime des mollahs? C'est la question que Alban Le Prince posera à ses invités, alors que ce soir Téhéran a répondu aux frappes américaines du week-end dernier sur son territoire, puisqu'une base militaire américaine au Qatar a été touchée par des missiles iraniens. Et puis dans 40 minutes, le grand reportage qui sera consacré ce soir à une drogue de synthèse surpuissante qui fait actuellement des ravages en Afrique de l'Ouest, c'est le Kush. Le grand reportage nous emmènera en Sierra Leone, épicentre de ce fléau. Voilà, vous avez le programme, ne bougez surtout pas, on revient dans une minute sur RFI.
Demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Ils étaient 5 jeunes ce 28 septembre 2009 à Conakry pour réclamer la démocratie quand la répression policière s'est abattue sur eux. L'un meurt, les autres sont brisés. Birgilsa Diallo raconte leur parcours dans Transhumance, un roman intime sur les violences politiques.
Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Ozempic, quelle efficacité de ce médicament dans le traitement de l'obésité?
Mercredi.
Journée internationale de lutte contre le vitiligo.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.